Unaforis.
Du côté de l'Unaforis. Un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Unaforis.
Sur le trottoir d'à côté.
Du monde de la formation professionnelle continue. Et j'essaie effectivement d'insister sur ce mot. C'est un monde que la formation professionnelle continue, donc en France. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il faut savoir une chose, c'est que la formation professionnelle continue est un marché. Est un marché qui est né au début des années 70. Plus exactement, c'est la loi Delors, 1971, qui crée une obligation de financer la formation professionnelle, une obligation de nature fiscale qui pèse sur toutes les entreprises en France. À l'époque, ça ne concernait que les entreprises de 10 salariés et plus. Depuis, ça s'est généralisé. Mais le fait de créer une obligation de financer la formation professionnelle, en parallèle, il y a un marché de la formation qui s'est développé. 71, c'est aussi la création d'un congé, une autorisation d'absence. Possibilité pour un salarié de s'absenter pour aller se former. Simplement, les années 70, c'était le plein emploi, les 30 glorieuses. Et la formation était appréhendée sous l'angle de la promotion sociale, de l'accès à la culture. Aujourd'hui, si vous avez uniquement comme projet l'accès à la culture ou la promotion sociale, c'est très compliqué d'obtenir un financement. On voit bien qu'effectivement, le contexte a changé. Simplement, le système, lui, a du mal à évoluer. Pourquoi ? Parce qu'il repose justement sur ce financement issu des entreprises, cette obligation de financer, cette obligation qui pèse sur les entreprises, qui va être modifiée, réadaptée, encore une fois, mais avec un système qui tourne autour du salarié. Simplement, les choses ont un petit peu évolué, comme vous le savez. Le contexte de ce qu'on appelle le chômage de masse s'est installé en France. L'emploi se raréfie et la formation, finalement, n'est plus un objectif, n'est plus une priorité en soi. La formation est devenue un moyen au service de ce qu'on appelle la compétence. Vous allez voir, hein, ce mot, aujourd'hui, effectivement, je dirais qu'il est en vogue. Compétence, mais qui dit compétence, dit emploi. Les choses vont s'accélérer à partir des années 2000. Et vous allez voir qu'on est sur un rythme de réforme très soutenu. Depuis les années 2000, on a une réforme tous les 5 ans. Allez, tous les 2 ans, après une élection présidentielle. Élection présidentielle 2002, 2004, vous avez une réforme. Élection présidentielle 2007, 2009, vous avez une réforme. Élection présidentielle 2012, 2014, vous avez une nouvelle réforme de la formation professionnelle. Ça, c'était avant. C'était tous les 5 ans. Maintenant, c'est tous les 2 ans. Donc 2014, ensuite loi travail, loi El Khomri, 2016, donc 2 ans après 2014, et puis la prochaine, 2018. Et la prochaine s'annonce systémique. Et on peut vraiment parler de rupture avec la loi Delors, la loi de 71. D'ailleurs, le plus vieux dispositif, le congé individuel de formation, disparaît au profit d'un nouveau dispositif qui est né le 1er janvier 2015, le compte personnel de formation. Le CIF sera dissous dans le CPF, dans le compte personnel de formation. Retenez cette idée que depuis les années 2000, on a l'impression que ce soit les partenaires sociaux, quand je dis les partenaires sociaux, dits représentatifs, c'est-à-dire ceux qui effectivement signent ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel, les partenaires sociaux essayent de trouver la bonne formule et avec l'impulsion des pouvoirs publics, qui essaient de faire en sorte que l'argent des entreprises, finalement, cette contribution fiscale, soit orientée vers le public des demandeurs d'emploi. On a tout essayé. 2004, on crée le droit individuel à la formation. Un droit qui n'avait que le nom, puisque c'était de la codécision avec l'employeur, et c'était l'employeur qui avait le dernier mot, si je puis dire. Simplement, sur le plan symbolique, on crée un compteur. On essaie de rendre acteur le salarié. On lui dit, Sachez que vous avez, à l'époque c'était 20 heures, 20 heures par an, dans la limite de 120 heures, et vous avez la possibilité de faire une demande à votre employeur. Simplement, c'était de la codécision, c'est l'employeur qui décidait. 2004, on crée un compteur, simplement ces heures n'étaient pas transférables, c'est-à-dire ne sautaient pas d'une entreprise à une autre. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient gérées par chaque employeur. C'est un premier jet. On a essayé d'améliorer le DIF en 2009, en créant ce qu'on appelle la portabilité du DIF, c'est-à-dire que l'idée, c'est de porter un financement pendant le préavis, pendant la période de chômage, chez le nouvel employeur. À l'époque, c'était 9,15 € multiplié par 120 heures, ça donnait 1098 €. Bon. Mais on voyait bien que le système ne marchait pas. Pourquoi ? Parce qu'il fallait absolument externaliser ce compteur. C'est ce qui a été fait en 2014. C'est la Caisse des dépôts et de consignations qui va gérer le compteur de tous les salariés. Ça s'est élargi. Aujourd'hui, il faut savoir que les agents publics ont également un compteur d'heures géré par la Caisse des dépôts et de consignations. Ce qu'on appelle les non-salariés, les travailleurs non-salariés, ont également un compte personnel de formation et voient, depuis le 1er janvier 2018, leur compte alimenté. Et le compte personnel de formation, effectivement, cette particularité, c'est qu'il s'adresse à tous les publics et il a une vocation universelle. Concernant les salariés, le CPF, en 2014, a été doté d'une enveloppe financière. Cette enveloppe financière, aujourd'hui, hein, on verra comment le mécanisme fonctionne, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CPF est alimenté en heures. Et la monétarisation du CPF se fait à travers des intermédiaires qu'on appelle des organismes paritaires, collecteurs, agréés, donc des OPCA. Et c'est là où, effectivement, la réforme annoncée va essayer de transformer le système en essayant de monétariser le compte en amont. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'alimenter le compte non plus en heures, mais en euros. On reviendra là-dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, on passe de 1971 à nos jours, d'une logique de promotion sociale à une logique de sécurisation des parcours. Alors cette sécurisation des parcours, encore une fois, ce n'est pas encore effectif, on n'a pas encore créé une sécurité sociale, hein, donc une autre branche de la sécurité sociale liée donc à la formation professionnelle. Mais il y a quelque chose d'embryonnaire qui commence à émerger et qui commence à émerger avec donc cette prochaine réforme où le législateur va devoir se poser une question assez simple de savoir comment, à partir des textes actuels, on peut créer donc une protection non plus des emplois, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est très compliqué, mais une protection de l'individu. C'est la raison pour laquelle que tout ce qui concerne l'individu sera traité, sera appréhendé dans un tout, hein, dans cette nouvelle loi, c'est-à-dire que cette loi portera à la fois sur la formation professionnelle, mais pas que. Il y aura aussi la partie apprentissage et la partie assurance chômage. Autant avant, on avait effectivement comme ça des réformes qui étaient séparées, parfois cloisonnées, ça ne communiquait pas bien. Là, c'est de prendre le tout. Et l'idée, c'est effectivement de créer un volet sécurité en contrepartie, bien évidemment, de ce qu'on appelait les ordonnances Macron, qui, elles, créent de ce qu'on appelle la flexibilité. Hein. Donc ça, c'est la contrepartie. En tout cas, trois volets seront traités par la prochaine loi. Donc, il y aura une thématique apprentissage, une autre thématique sur la formation professionnelle et une troisième thématique sur l'assurance chômage. Et bien évidemment, l'idée, c'est de créer l'interaction entre les trois sujets. Aujourd'hui, les arbitrages concernant l'apprentissage ont bien été effectivement livrés par le gouvernement. C'est très récent, le 9 février. Très clairement, l'apprentissage sera confié aux branches professionnelles. On reviendra sur, c'est peut-être un peu technique, mais je pense que c'est important et l'idée, c'est de vulgariser au maximum pour qu'on puisse comprendre aussi les sources de financement aujourd'hui en matière de formation. C'est que l'apprentissage, par définition, et pour des raisons historiques, est considéré comme étant de la formation initiale et non pas de la formation professionnelle continue. Simplement, on voit bien qu'il y a beaucoup de similitudes. Au même titre que la formation professionnelle continue, l'apprentissage est financé via un impôt, via une taxe. De même qu'il s'agit d'un contrat de travail pour l'apprenti. Mais il n'empêche que la tuyauterie financière, si je puis dire, était différente Et le système n'était pas du tout conçu un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, la formation professionnelle, c'est-à-dire la formation professionnelle est un marché, hein, alors qu'effectivement, l'apprentissage, on considère qu'on est dans une logique de service public. Hein, voilà. Donc là, la frontière va clairement tomber, et on verra pourquoi. Le volet assurance chômage, vous avez entendu effectivement de cette idée de... tout à l'heure, je vous parlais de la disparition du congé individuel de formation. Le congé individuel de formation permettait à un salarié de demander l'autorisation d'absence, de s'absenter, d'avoir la garantie, après la formation, de retrouver son poste de travail. C'est-à-dire que l'idée, c'était de se former sur le temps de travail. Aujourd'hui, on considère que... c'est une des volontés du gouvernement et une des promesses du candidat Macron, hein, donc, lorsqu'il s'était présenté aux élections présidentielles, de permettre ce qu'il a appelé la mobilité choisie, à savoir la possibilité de démissionner pour un projet professionnel, tout en bénéficiant de l'assurance chômage. Donc ça, c'est le volet assurance chômage qui a fait l'objet aussi d'une négociation entre les partenaires sociaux. Et ce qui se dessine, c'est effectivement la possibilité de démissionner pour aller se former tout en bénéficiant de l'assurance chômage. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir en tête cette approche systémique et essayer de comprendre les interactions entre les trois thématiques. Ce qui est sûr, c'est que pour l'apprentissage, le gouvernement s'est clairement prononcé le 9 février. La formation professionnelle et l'assurance chômage, les deux thématiques ont fait l'objet d'une négociation. On a eu les résultats de la négociation pour l'assurance chômage. Le gouvernement semble reprendre fidèlement, ou je dirais loyalement, ce texte-là. En revanche, pour la formation professionnelle, le gouvernement reprendra l'esprit, si je puis dire, mais annonce une réforme beaucoup plus systémique en essayant effectivement de s'attaquer à toute l'architecture du système actuel. C'est ce que Muriel Pénicaud a appelé le Big Bang. A priori, donc, généralement, après un Big Bang, il y a des étoiles. Donc, on verra quelles sont effectivement les étoiles qui vont naître. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment une approche systémique qu'il va falloir comprendre. Autant les réformes qui ont eu lieu en 2004, 2009, 2014, on était dans une logique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, où on essayait de s'attaquer au système sans s'attaquer au financement. C'était très compliqué. Là, on s'attaque au système en s'attaquant au financement et en s'attaquant à la question de la gouvernance. C'est la raison pour laquelle, effectivement, le paysage que vous connaissez peut-être de la formation professionnelle continue va évoluer, va même se transformer et, bien évidemment, sera un impact sur l'ensemble des acteurs, que l'on soit prestataire, quand je dis prestataire, organisme de formation avec un numéro de déclaration d'activité, CFA, ou encore lorsqu'on est financeur. Donc, il faut savoir qu'effectivement, les organismes paritaires que vous connaissez aujourd'hui vont complètement se transformer pour devenir ce qu'on appelle des opérateurs compétences, avec aujourd'hui beaucoup d'incertitudes sur leur statut, sur leur mission, et puis surtout sur leur nombre et comment tout ça va se structurer. Je reviendrai sur ces questions-là un peu plus tard. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la formation professionnelle, et c'est toujours intéressant... Alors, je suis désolé, moi, je ne vais pas contextualiser, c'est-à-dire que je m'adresse à des organismes de formation, avant tout. Hein, si vous voulez, pour moi, le statut est un critère inopérant en matière de formation professionnelle. Hier, je m'adressais à l'AFPA, je m'adresse au GRETA, comme je peux m'adresser à SEGOS, DEMOS, peu importe. Comme on dit, la loi... et général et impersonnel. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment de comprendre que la réforme ne s'adresse pas à une structure en particulier. En tout cas, la formation professionnelle, si on essaye de prendre de la hauteur, il y a des sources de financement. Et la particularité de ces sources de financement, c'est qu'ils sont publiques. Alors c'est un paradoxe, puisque tout à l'heure, je vous disais que la formation professionnelle est un marché libre. A priori, si c'est un marché, tout le monde peut y avoir accès. On crée sa structure, peu importe le statut, hein, donc SAS, SARL, auto-entrepreneur, et on va sur ce marché-là. Simplement, c'est un marché très réglementé, puisqu'on nous demande d'avoir un numéro de déclaration d'activité pour y accéder, c'est-à-dire de se déclarer auprès de l'administration. Dès lors qu'on forme, pour schématiser, les adultes, hein, Le Code du travail est un peu plus précis, il parle de personnes dans la vie active, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les personnes qui sont sorties de la formation initiale et qui sont engagées dans la vie active. Dès lors qu'on présente son activité comme étant de la formation, en France, il y a une obligation, c'est de se déclarer. Ce n'est pas une option, il faut se déclarer. Le numéro de déclaration d'activité, quel est son intérêt ? Son intérêt, c'est d'être identifié par l'administration. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'administration contrôle que les fonds de la formation professionnelle sont bien utilisés. Et que les organismes qui se positionnent dans ce marché-là délivrent bien des actions de formation au sens juridique du terme. Donc l'organisme de formation, quand on regarde aujourd'hui, vous avez effectivement plusieurs sources de financement. Ce qui est en haut, c'est ce que j'appelle les fonds publics. Les fonds publics, bien évidemment, vous allez retrouver la région qui a une compétence générale en matière de formation professionnelle continue, Pôle emploi, l'État, qui a une compétence d'attribution, l'Europe, à travers le FSE, mais surtout, et c'est ce qui constitue, on va dire, le plus grand financeur, les fonds paritaires. Les fonds paritaires sont assimilés à des fonds publics. Pourquoi ? Parce que tout simplement, l'entreprise qui verse sa contribution se libère d'une obligation fiscale. À l'origine, c'est un impôt. Certes, cet impôt est aujourd'hui géré par des organismes paritaires, mais c'est parce que l'État l'a bien voulu. L'État a donné un agrément. C'est pour ça qu'on appelle cela des organismes paritaires collecteurs agréés. Donc l'État reste maître du jeu. Les fonds mutualisés, qui sont gérés par Uniformation, Unifaf, peut-être les organismes que vous connaissez, il y a 39 agréments aujourd'hui en France. Hein. Il y a 20 OPCA, organismes paritaires collecteurs, on va dire 19, ce qu'on appelle des OPACIFs. Hein. Alors, il y a le réseau des fonds GESIF, hein, donc ils sont 17, et 2 AGESIF. Voilà. Donc en gros, il y a 39 agréments. Donc la gestion des fonds de la formation professionnelle sont gérés par des structures privées, mais l'argent en question, c'est de l'argent public. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si l'entreprise n'avait pas versé sa cotisation, elle doit verser au trésor public. Donc c'est la raison pour laquelle il y a toujours cette ambiguïté autour de ces fonds, et il y a toujours une dispute entre les partenaires sociaux qui qualifient ces fonds-là comme étant des fonds privés, alors que l'État, lui, voit ça comme des fonds publics. Quand on est organisme de formation, la question c'est où est-ce que je me positionne et comment j'adapte mon offre pour aller chercher ces financements. C'est l'idée, en tout cas, de tout organisme de formation. Alors bien évidemment, si on a une offre qui intéresse les entreprises sans passer par ce que j'appelle les fonds publics, c'est-à-dire ce que j'appelle les fonds privés, on peut s'adresser directement à une entreprise, mais à la limite, aujourd'hui, avoir un numéro de déclaration d'activité pour vendre des prestations aux entreprises, ça n'a plus aucun intérêt. D'ailleurs, l'administration ne contrôle plus ces organismes de formation. Les organismes de formation qui travaillent que sur des fonds privés, des entreprises, hein, lorsque l'entreprise achète en direct, le numéro de déclaration n'a plus aucun intérêt. On peut aussi travailler avec des particuliers, en faisant signer ce qu'on appelle des contrats de formation. Mais là, le particulier, c'est un consommateur. Et c'est un consommateur qui sera prochainement assuré, puisqu'il va disposer d'un compte alimenté en euros demain. Donc ce qui est sûr, c'est que ce qui est convoité aujourd'hui, c'est plutôt l'argent, on va dire, mutualisé, l'argent des organismes paritaires. Et aujourd'hui, effectivement, les organismes paritaires, on distingue ce qu'on appelle des OPCA OPACIFs. Donc typiquement, les OPACIFs, vous connaissez Uniformation, Unifaf, mais pas que. Hein, il y a le FAFTT, l'AFDAS, le FAFCA. Et puis, vous avez le réseau des fonds GESIF et un organisme un peu particulier qui, lui, ne s'adresse pas directement aux organismes de formation, ce qu'on appelle le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qu'on appelle le FPSPP. Et ce fonds-là a été créé notamment pour orienter, c'est un super OPCA, hein, si je puis dire, qui oriente les fonds de la formation professionnelle plutôt vers le public des demandeurs d'emploi. Je ne reviens pas sur le paysage des organismes paritaires, mais retenez juste cette idée que ce paysage-là sera complètement transformé, a priori, à partir du 1er janvier 2020. Voilà. C'est-à-dire que vous allez plus reconnaître, demain, je ne sais pas si Uniformation, Unifaf, en tout cas, ça ne sera plus des OPACIF, ça ne sera pas des OPCA, ça sera des opérateurs compétences avec une réorganisation qui sera différente. Je reviendrai sur la question de la restructuration des acteurs tout à l'heure. Mais retenez déjà cette idée que le marché de la formation professionnelle, donc si je fais un zoom uniquement sur la partie qui concerne les OPCA au passif, aujourd'hui il faut savoir qu'ils collectent environ 7 milliards d'euros. Alors, on est loin des 32 milliards qu'on entend à chaque fois, effectivement, dans un certain nombre de médias. 32 milliards, il faut savoir, c'est la dépense globale. Et dans les 32 milliards, il y a la formation des fonctionnaires, la formation des demandeurs d'emploi, la formation des salariés lorsque l'entreprise finance directement. Mais ce qu'on compte aussi dans les 32 milliards, ce sont les rémunérations des salariés, par exemple. Donc, lorsqu'un salarié s'absente pour suivre une formation dans le cadre d'un plan de formation, l'employeur qui paye cette rémunération, qui maintient cette rémunération, c'est une dépense, donc on la comptabilise. Pour les partenaires sociaux, c'est 7 milliards d'euros. Déjà, pas mal, mais c'est pas 32 milliards, hein, c'est-à-dire qu'il faut toujours relativiser. Mais souvent, il y a toujours cette confusion. On considère que les partenaires sociaux gèrent 32 milliards d'euros. Non, ils gèrent 7 milliards d'euros. Alors, les 7 milliards sont répartis dans des enveloppes financières. Il y en a 6. La première section, c'est la section plan de formation. Elle est réservée uniquement aux entreprises de moins de 300 salariés. La deuxième section, c'est la professionnalisation pour financer ce qu'on appelle du contrat de professionnalisation et de la période de professionnalisation. Le CPF, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, depuis 2014, contrairement au DIF, le CPF a été doté d'une enveloppe financière. Le congé individuel de formation, qui lui finance, comme son nom l'indique, le congé individuel de formation. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours, qui est un fonds un peu spécifique, qui anime le réseau des fonds GESIF et qui a pour vocation première de financer la formation des salariés les moins qualifiés et des demandeurs d'emploi. Et puis, il y a une contribution supplémentaire qu'on appelle le CIF-CDD, qui concerne les congés individuels de formation des CDD. Ça, c'est, on va dire, le schéma actuel, c'est l'existence, si je puis dire. Sachant que dans les 7 milliards d'euros, je mets également tout ce qui relève du conventionnel, et je sais qu'effectivement, dans votre secteur, le conventionnel représente une part très importante, et ce que j'appelle le volontaire, c'est-à-dire des entreprises qui versent volontairement à leurs OPCA. Mais en tout cas, le fiscal, c'est grosso modo 5,2 milliards d'euros. Alors la clé de la réforme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en parallèle, vous avez le volet apprentissage. Le volet apprentissage, il y a une contribution parallèle. Hein, donc vous avez effectivement la formation professionnelle continue, donc c'est 1%, ça va aux OPCA. Et puis les entreprises qui sont assujetties, parce que dans le milieu associatif, par exemple, les associations sont exonérées hein, de la taxe d'apprentissage, mais sachez que les autres entreprises, en tout cas, doivent verser un 0,68% pour la taxe d'apprentissage. Et sur ces 0,68%, vous avez 51% aujourd'hui qui va à la région pour financer et pour subventionner les CFA. Pourquoi je parle d'un point clé de la réforme ? C'est parce que tout simplement, le gouvernement a décidé de fusionner les deux taxes. Les deux taxes seront fusionnées. Demain, vous allez avoir un système qui ressemble à ce schéma. C'est-à-dire que l'entreprise demain... Alors, reste la question de savoir si les associations seront assujetties ou pas. Pour l'instant, effectivement, il y a des arbitrages au sein du cabinet. J'ai des versions qui diffèrent tous les jours, donc qui changent tous les jours. D'après ce que j'ai compris, pour l'instant, il n'y aurait pas d'exonération. Mais attendant le texte, on va dire, définitif... Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'idée, c'est que les entreprises, demain, vont verser une seule taxe qui comprend à la fois la contribution formation et la contribution apprentissage. Donc tout à l'heure, je vous disais que la contribution formation, c'est 1%, la taxe d'apprentissage, c'est 0,68%. Demain, les entreprises vont verser 1,68%. Ces 1,68% ne seront plus collectés par les OPCA, par Uniformation, Unifaf, etc., mais seront collectés par l'URSSAF. Ça sera une cotisation de nature sociale, au même titre que les autres. Les cotisations assurance chômage, maladie, etc., etc. Donc l'URSSAF va collecter. L'URSSAF fait remonter cet argent à la CAWS. Donc on estime que la fusion des deux taxes représentera à peu près 10 milliards d'euros. Donc déjà, les organismes paritaires collecteurs ne seront plus collecteurs. Donc ils perdent effectivement cet agrément. C'est l'URSSAF qui collectera. Sur la tuyauterie financière, aujourd'hui, on a des incertitudes. Quel serait l'exact, chemin qu'empruntera cette somme d'argent? Ce qui est sûr, c'est que c'est l'URSSAF qui collecte. Certains pensent que ça ira directement à la Caisse des dépôts et de consignation via ce qu'on appelle la CAWS. Bon, à la limite, c'est pas très important. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que cet argent-là va être réparti de la manière suivante. Il va y avoir des opérateurs de compétences. Les opérateurs de compétences, certains considèrent que ce sont les OPCA actuels. Non, pas tout à fait. On partira sur cette base-là, mais tout reste à reconstruire à partir d'une idée qui reste à définir, ce qu'on appelle la filière économique. Ça ne sera plus dans une logique de branche, mais dans une logique de filière économique, ce qui suppose que certaines branches qui sont très proches devront travailler ensemble, et se rapprocher en tout cas. Donc, ce qui se dit, c'est aussi qu'aujourd'hui, on est à peu près à 20 OPCA, demain, il y aura 10 opérateurs compétences, à peu près. Donc déjà, effectivement, leur nombre va diminuer. Et les opérateurs de compétences ne vont s'occuper que de l'entreprise et non plus de l'individu. Aujourd'hui, l'individu doit faire face, si je puis dire, en tout cas doit passer par une intermédiation, donc une intermédiation assurée soit par les fonds GSIF, Uniformation, Unifap pour la partie CIF, soit par donc les OPCA, là, Uniformation sont, ou Unifap sont également OPCA, pour la partie CPF. Vous voyez ? Demain, tout ce qui concerne l'individu n'aura plus à faire ces démarches-là. Les opérateurs compétences ne s'occuperont que des entreprises et particulièrement des TPE-PME. L'idée, c'est effectivement de monter une offre de service. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les annonces du gouvernement, les annonces de la ministre, Muriel Pénicaud, le 5 mars, elle parle d'opérateurs compétences. Elle n'a pas parlé d'opérateurs paritaires. Là aussi, question, quid de la gouvernance ? Est-ce que ça restera paritaire ? Bon. En tout cas, leur mission principale, c'est financer les plans de formation des TPE-PME, de financer les CFA, mais pas sous forme de subvention, financer les CFA au contrat d'apprentissage. Les opérateurs de compétences pourront offrir leurs services aussi pour l'élaboration des certifications professionnelles de branche. Concernant l'individu, cette fois-ci, lui, son compte sera monétisé. 500 euros par an, avec un plafond de 5000 euros tous les 10 ans. Pour les salariés qui ont une qualification donc inférieure au CAP BEP, ça sera 800 euros et 8000 euros donc tous les 10 ans. Donc le CPF sera monétisé et sera géré directement par la Caisse des dépôts et de consignations. Et on verra effectivement sur les modalités pratiques, même si beaucoup de choses restent à préciser. Et puis il y a une partie qui représente à peu près 0,3% hein, de cette contribution qui ira alimenter ce qu'on appelle le PIC, le plan d'investissement des compétences. Hein. Vous savez, c'est 15 milliards d'euros qui vont être investis dans la formation professionnelle et qui était un engagement du candidat Emmanuel Macron sur ce quinquennat. Hein. Donc, en tout cas, une partie sera financée sur les fonds mutualisés qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient gérés par les partenaires sociaux. Vous voyez, en tout cas, le schéma, enfin le paysage va complètement se transformer et bien évidemment, la question c'est quid des prestataires, des organismes de formation. Alors, et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est un petit peu comment effectivement cette réforme peut être vécue, si je puis dire, même s'il faut toujours rester précautionneux et parler au conditionnel pour la simple raison, et c'est le juriste qui parle, tant qu'on n'a pas le texte définitif, hein. Il y aura encore des arbitrages, il y aura un débat parlementaire, il y aura des amendements. Mais l'idée, c'est de comprendre la philosophie générale et de pouvoir également et éventuellement donc anticiper l'impact sur votre activité. D'abord, la désintermédiation du marché. Dès lors que vous dotez les individus d'un capital, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que potentiellement, vous, en tant que prestataire, vous pouvez démarcher directement l'individu. Et donc, il n'y a plus d'intermédiaire. Avant, en tout cas, du moins, il n'y a plus d'intermédiation financière. Hein. Un salarié qui voulait faire un CIF, un CPF et qui venait chez vous, bon, il devait passer par la case OPCA au passif et essayer d'obtenir une prise en charge. Hein. Donc il fallait remplir un dossier, etc. Alors, la désintermédiation, ça réinterroge tout le modèle économique et le modèle actuel. Il faut savoir qu'il est basé sur deux dispositifs. Quand on parle de droit individuel, vous savez, il y a le CIF et le CPF aujourd'hui. Hein. Donc tout ce que je vais vous dire, c'est le futur. Ça, c'est l'existant. Hein. L'existant, c'est le CIF aujourd'hui. Congé individuel de formation, qu'est-ce que c'est ? C'est un droit de s'absenter avec une rémunération financée, surtout avec la liberté économique de faire la formation de son choix. Quand on fait un CIF, je peux choisir n'importe quelle formation, dès lors qu'il s'agit d'une action de formation. Et cette formation n'est pas nécessairement, ne doit pas correspondre nécessairement à ce que je fais dans l'entreprise. Hein, ça, on peut avoir effectivement, et d'ailleurs le CIF a été conçu pour ça, a été conçu plutôt dans une logique de reconversion, hein, c'est-à-dire faire autre chose. Même si on a la garantie de reprendre son poste après, effectivement, cette absence. Typiquement, le congé annuel de formation, c'est un projet personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un salarié s'adresse à son employeur, ce qu'il lui demande, ce n'est pas son avis sur son projet de formation. Ce n'est pas son avis sur le prestataire que le salarié a choisi. Ce qu'il demande, c'est une autorisation d'absence, qui est un droit d'ailleurs. L'employeur est tenu de la donner. Il peut la reporter, mais il est tenu effectivement de donner l'autorisation d'absence. Le CPF, c'est différent. Le CPF, aujourd'hui, vous avez des heures en tant que salarié. Vous souhaitez vous former, vous avez la possibilité, bien évidemment, de faire votre formation sur votre temps personnel. Et si vous souhaitez faire ça sur votre temps de travail, ben là, c'est différent du CIF. Il faut avoir l'accord de son employeur. Là, l'employeur a un droit de regard, hein, c'est-à-dire qu'il a le droit de dire non, il peut refuser. Simplement, demain, et c'est toute la question, qu'est-ce qu'on souhaite créer à travers le CPF monétisé ? Une logique CIF ou une logique CPF ? Ce qui est sûr, c'est que le fait de monétiser, ça va permettre effectivement d'exonérer en quelque sorte l'individu de la complexité actuelle. Aujourd'hui, il faut savoir que le CIF ou le CPF, donc il y a 4 enveloppes financières pour 2 droits individuels. C'est un peu compliqué, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, les deux dispositifs, il y a des zones de concurrence, hein, donc parfois on hésite à ce que je passe par le CPF, pour le CIF, pour faire cette formation, on ne sait pas trop. Et puis surtout, je ne vais pas revenir sur l'ingénierie financière, mais sachez que par exemple, lorsqu'on est demandeur d'emploi, quand on souhaite mobiliser son CPF, c'est plus l'OPCA qui paye, c'est le fameux FPSPP. Simplement, le FPSPP, l'argent, le flux va passer par Pôle emploi ou par la région. Enfin, ça, le demandeur d'emploi ne le sait pas. Mais c'est très compliqué à expliquer, en tout cas. Demain, le fait d'avoir de l'argent sur son compte, il n'y aura plus toutes ces questions à poser. Il n'y aura plus des questions à se poser sur le fait de savoir à qui je dois m'adresser, quelle enveloppe financière je dois choisir et surtout quel dispositif je dois choisir. Est-ce que je fais du CPF ou du CIF ? En revanche, dès lors que vous créez un système en quelque sorte assurantiel, bah, il faut se poser la question du déficit. Aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut sur le secteur de la formation professionnelle, en tout cas si on se place du côté des financeurs, c'est un système qui n'est pas déficitaire. Alors c'est la complexité aussi qui fait qu'il n'est pas déficitaire, mais parce que tout simplement, il repose sur des logiques. Prenons par exemple l'exemple du CIF, du congé annuel de formation. Aujourd'hui, le congé annuel de formation, certes, vous avez un droit de s'absenter, mais ce n'est pas un droit d'avoir un financement. C'est-à-dire que vous allez avoir l'autorisation d'absence, puis derrière, il faut monter un dossier, ça va passer en commission, et le fonds GCF, Uniformation, Unifaf, etc., vont se prononcer sur votre dossier en fonction d'une enveloppe, et dans la limite de cette enveloppe. C'est la raison pour laquelle que le CIF a été conçu dans une logique de priorité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on raisonne sur une enveloppe financière. Et en fonction des priorités qui ont été fixées, bah, votre dossier, soit il est en haut de la pile, là vous avez une chance d'obtenir un financement, soit il est en bas de la pile, et là vous n'avez pas de chance d'obtenir de financement. C'est-à-dire que là, un fonds GCIF, Uniformation, Unifap sont en droit de refuser un dossier. Le CPF, c'est différent. Le CPF, vous avez des heures, votre formation est éligible, c'est-à-dire qu'elle débouche sur une des certifications dites éligibles. Bah, là, a priori, en tout cas, c'est une ambiguïté légale, on vous dit que vous avez droit. Vous avez droit, effectivement, à un financement. Alors, c'est vrai que le système est très récent. Ça a démarré le 1er janvier 2015. Pour l'instant, le système n'est pas encore déficitaire. Pourquoi il n'est pas déficitaire ? Parce qu'il y a une régulation qui se fait à travers, justement, les intermédiaires, à travers les OPCA. Vous avez des heures. Potentiellement, un salarié peut aller jusqu'à 150 heures. Ou 400 heures, si c'est un salarié dont la qualification est inférieure au BEP-CAP. Mais tant que ça reste des heures, si vous voulez, le salarié ne sait pas concrètement quelle est la valeur de ces heures. C'est au moment où il va faire sa demande de prise en charge auprès justement d'un intermédiaire, d'un OPCA, c'est là où il va savoir concrètement combien vaut l'heure de formation. Et les intermédiaires jouent cette régulation à travers ce qu'on appelle les plafonds. Et vous voyez bien que le CPF, bah, selon l'OPCA, le taux de prise en charge est différent. Vous avez des taux de prise en charge à 100 euros, d'autres à 30, 40, 50. Finalement, vous ne savez jamais. Tout à l'heure, je vous disais que, par exemple, les moins qualifiés avaient 400 heures. C'est vrai que le système paraît généreux comme ça. Mais avoir 400 heures dans un secteur où on finance à hauteur de 15 euros, c'est pas très intéressant. Si, parallèlement, vous avez une personne qui a 150 heures, qui a un bac plus 5, et qui est dans un secteur où on finance à 100 euros, toujours plus intéressant, effectivement, d'avoir 24 heures. Pourquoi ? Parce que le secteur est plus généreux. En tout cas, la branche où, je dirais, l'OPCA qui prend en charge est plus généreux. Donc, vous voyez que vous avez aujourd'hui un système qui fait que l'heure de formation, bah, finalement, on ne sait jamais à l'avance ce que vaut cette heure. C'est très aléatoire. C'est toujours au moment où je vais faire la demande, sachant que c'est très fluctuant, ça fluctue. Hein, donc, selon, effectivement, si... vous êtes en début d'année, fin d'année, donc, et ça change tous les ans. D'ailleurs, le conseil d'administration d'un OPCA peut changer les taux de prise en charge chaque année. D'ailleurs, les prestataires de formation, certains en tout cas, et on le voit, c'est une pratique qui se développe de plus en plus, et d'où la perversité de ce système, c'est qu'il résonne un peu comme les opticiens. C'est-à-dire que quand vous allez faire des lunettes, souvent, l'opticien vous dit, bah, pour vous, bah, ça sera temps, parce qu'effectivement, je vois que la mutuelle prend en charge... à hauteur de voilà, 3 000, 4 000 euros, alors que vous avez effectivement le même opticien qui peut donner, ou en tout cas fixer un prix différent, parce que on va dire le bénéficiaire ou le client a une mutuelle moins généreuse. Donc vous avez effectivement des organismes de formation qui fixent, et ça a un impact hein, réel hein, sur la fixation des prix de formation. Donc c'est la raison pour laquelle l'idée... d'alimenter aujourd'hui les comptes en euros, bah, ça va changer aussi la façon de concevoir son offre de formation. Parce que potentiellement, quand on vous dit vous avez 500 euros, on ne vous dit pas ça finance combien d'heures. 500 euros, ça peut financer une demi-journée de formation. Vous pouvez très bien imaginer un système où on ne finance plus par rapport à des heures, on finance par rapport à l'acte, par rapport au résultat. Un des reproches qui est fait au système actuel, c'est que les OPCA au passif ne financent pas le résultat de la formation, mais financent souvent du temps de présence. D'ailleurs, la feuille d'émargement a été sacralisée. Peu importe ce qui s'est passé au cours de la formation, du moment que le salarié ou le demandeur d'emploi a signé sa feuille d'émargement. Mais concrètement, est-ce qu'il y a eu des résultats? Quel est le taux d'insertion par rapport à cette formation? Sur quoi elle a débouché? Est-ce qu'il y a un suivi de la personne qui a été formée? À la limite, on peut faire moins d'heures et avoir des résultats. Pourquoi, effectivement... Donc, si vous voulez, c'est que ça va obliger aussi à repenser la façon de concevoir la formation, et l'heure, si vous voulez, deviendra un critère inopérant, finalement. Donc 500 euros, l'idée, c'est de sortir, justement, de la logique temps de formation pour se concentrer sur plutôt les résultats, plutôt sur l'évaluation des acquis. Et donc, bien évidemment, on verra si, là on est plutôt sur des annonces, hein, on verra ce que donnera le texte définitif et comment tout ça va être rédigé. Ce qui est sûr, c'est que c'est une approche différente. C'est une approche différente d'autant plus que celui qui décide de financer ou pas, c'est l'individu. C'est son capital, c'est son argent. Donc là... la question, c'est qu'est-ce qu'on met comme offre en face? Et pour l'instant, c'est un peu le flou. Qu'est-ce qu'on met comme offre? Alors, ce qui est sûr, c'est que demain, il y aura une désintermédiation financière totale. Autant les opérateurs de compétences, vous vous souvenez, ceux-là continueront à assurer un rôle d'intermédiation, mais plus pour l'individu, pour les entreprises, et particulièrement pour les TPE-PME. L'individu, lui, nous dit le dossier de presse, encore une fois, je me base uniquement sur ce que dit le dossier de presse. Le salarié sera libre d'acheter toutes les formations qu'il estime utiles. Et ce n'est pas à lui de régler, c'est la Caisse des dépôts qui le fait directement. La question, est-ce que demain on créera une carte vitale et on va demander aux organismes de formation, effectivement, de s'équiper hein? C'est-à-dire que vous allez avoir un système d'information, la Caisse des dépôts paye directement. Ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans le secteur de la santé. Vous remplacez bénéficiaire par patient, acte formatif par acte médical... organisme de formation par médecin. Simplement, le médecin, c'est une profession réglementée. Et ça, je pense que ce sera la contrepartie. Parce que effectivement, dès lors que vous dotez des individus une somme d'argent, il va falloir verrouiller en face. Et l'offre de formation, bien évidemment, sera verrouillée. C'est-à-dire que l'individu pourra utiliser librement son argent, mais en achetant des formations dispensées par des organismes de formation labellisés. Certifié. Alors, je ne sais pas quel terme sera retenu, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir un marqueur grand public pour dire cet organisme est sérieux ou il n'est pas. Pourquoi je vous dis ça? En se fondant toujours sur ce dossier de presse, on nous dit qu'effectivement, bien évidemment, pour les salariés autonomes, tout se fera sur son smartphone. Il faut avoir un smartphone, oui. Donc effectivement, sur le smartphone, après, c'est sûr qu'effectivement, ça peut faire sourire, mais il n'empêche que le système est pensé aussi pour les générations à venir. Et aujourd'hui, on voit bien que le smartphone est utilisé, même s'il ne faut pas opposer le smartphone, l'application, à l'accompagnement. Parce que souvent, on oppose les deux. On a toujours besoin d'un accompagnement. Et ça, c'est le deuxième volet. C'est le conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, cette prestation, il faut savoir que demain, elle sera dotée d'un financement spécifique. Mais il faut bien avoir en tête que le CPF, sur le mobile, l'idée, c'est effectivement permettre à l'individu de connaître ses droits, connaître concrètement combien la personne a acquis. Et puis, derrière, ça permet aussi peut-être d'inciter. Hein, on dit aussi la question, on parle beaucoup de la question de l'appétence. Hein. Mais c'est bien d'avoir des droits. Mais avoir des droits effectifs, c'est encore mieux. Savoir qu'on a 500 euros sur son compte, on peut se poser la question. Alors, quand on dit 500 euros, bien évidemment, c'est le minimum. Si on ne s'est jamais formé, on n'a jamais utilisé son CPF, on peut arriver effectivement au bout de 10 ans donc, à 5000 euros. Quelles formations seront mises en face ? Alors, le dossier de presse continue à parler de formation certifiante. Donc l'idée, c'est effectivement que la formation ne débouche pas que sur une attestation de fin de formation. Elle débouche sur une certification. Certification, c'est un terme générique qui n'est pas défini d'ailleurs par la loi et qui comporte, on va dire, ce qu'on appelle les diplômes, les titres et les certificats de qualification professionnelle, les CQP. L'idée, c'est quoi ? C'est effectivement, je m'informe sur les formations proposées dans mon bassin d'emploi ou dans ma région, mais surtout, je m'informe sur l'utilité de ces formations, c'est-à-dire sur le taux d'insertion dans l'emploi, sur le salaire prévisionnel à l'embauche. Mais qui va renseigner tout ça ? C'est l'organisme de formation, bien évidemment, qui, à un moment donné, il va falloir mettre en œuvre des choses qui permettent, effectivement, de donner ces informations. Surtout, possibilité de comparer les prix. Et puis, le TripAdvisor, effectivement, de la formation qui sera mis en place à travers cette application. L'idée, c'est aussi se fonder sur le commentaire des bénéficiaires. Et finalement, c'est vrai qu'on a toujours essayé d'appréhender la notion de la qualité à travers le droit. Mais c'est très difficile de dire ce qu'est la qualité en matière de formation professionnelle, pour la simple raison que la formation, par définition, c'est de la co-construction. Parfois, la formation, effectivement, a des résultats parce que le formateur a été bon. Mais parfois, le formateur n'est pour rien. Hein, c'est parce qu'effectivement, le formé a bien voulu se former. Hein, donc, parfois, effectivement, ça ne marche pas parce que le formateur était mauvais ou parce que le formé n'était pas réceptif, mais parce que tout simplement, il y a eu un problème de positionnement, hein, le commanditaire. Donc, on est dans de la co-construction. Qui mieux que finalement le bénéficiaire pour dire que vous... Alors, c'est un indice, hein, bien évidemment, l'idée, c'est pas de se... Mais il n'empêche que on met le bénéficiaire dans une logique de... enfin, en tout cas, on lui fait endosser un rôle qui est celui de consommateur, hein, un peu comme ce qu'on voit lorsque on voyage, hein, lorsqu'on teste un hôtel, un restaurant, etc. etc. Et puis surtout, la question effectivement de la dématérialisation, hein, donc, qui consiste à payer directement l'organisme de formation via l'application. L'application, encore une fois, a été conçue uniquement pour les personnes autonomes. C'est-à-dire que l'idée, c'est de leur économiser toutes les démarches administratives, d'aller s'adresser directement à l'organisme de formation. J'insiste bien sur le fait qu'il ne faut jamais opposer, parce que ça, je l'entends souvent, notamment dans le secteur de la formation professionnelle, opposer une application mobile à la question de l'accompagnement. Bien évidemment, il faudra toujours un accompagnement et des personnes physiques pour accompagner les personnes qui sont moins autonomes. Simplement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les accompagnateurs... Et à Centre Info, on est bien placé pour le savoir, puisque nous avons professionnalisé les réseaux des conseillers en évolution professionnelle, et notamment les réseaux des fonds GESIF. On a bien vu qu'il y avait une difficulté pour les conseillers en évolution professionnelle, c'est qu'ils n'avaient pas d'outils. Demain, avec l'application, ils auront aussi un outil. C'est-à-dire le conseiller en évolution professionnelle pourra utiliser l'application pour justement orienter les personnes qui sont moins autonomes et qui auront effectivement du mal à s'y repérer avec l'application. Alors attention, quand on parle d'application, on n'est plus dans une logique de l'environnement informatique. Autant un ordinateur, avant il fallait savoir effectivement l'allumer, l'éteindre, ouvrir un dossier. L'application, aujourd'hui, l'idée c'est qu'on considère que c'est très intuitif et qu'effectivement, souvent, on peut ne pas avoir ce qu'on appelle le socle, et savoir se servir d'un smartphone, c'est-à-dire l'idée que j'appuie et puis voilà, j'ai des informations au fur et à mesure. Ce qui est sûr, c'est que le conseil en évolution professionnelle, contrairement à tout ce qui a été dit depuis le 1er janvier 2014, il n'a jamais existé réellement. Pourquoi ? Parce qu'au 1er janvier 2015, lorsque le conseil en évolution professionnelle a été mis en place, suite à la loi du 5 mars 2014, on a désigné 5 opérateurs. C'est-à-dire que la loi a considéré que Pôle emploi, les missions locales, l'APEC, Cap emploi, les fonds GESIF devaient délivrer le conseil en évolution professionnelle. Simplement, ces opérateurs devaient faire cela à budget constant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été dotés d'une enveloppe financière. Le service est un service gratuit pour l'individu, mais tout service gratuit a un coût. Demain, ça sera différent. C'est-à-dire que demain, la région... Alors, ce ne sera pas exactement la région, on verra effectivement quel est l'opérateur qui lancera l'appel d'offres, mais en tout cas, au niveau de chaque région, selon un cahier des charges qui sera élaboré par l'État, la région et les partenaires sociaux, tout opérateur pourra se positionner sur le conseil en évolution professionnelle. Tout opérateur.
Donc,
oui, les organismes de formation. C'est-à-dire qu'effectivement, là, typiquement, on ouvre le marché donc du conseil en évolution professionnelle. Mais évidemment, Pôle emploi, l'APEC, Mission locale peuvent aussi candidater. Mais ça sera un appel d'offres. Et alors, on parle de 250 millions d'euros qui seront dédiés exclusivement à cette prestation qui est le conseil en évolution professionnelle. Donc effectivement, là aussi, il y a une opportunité, notamment pour les prestataires, c'est de se positionner sur ce nouveau conseil. Alors je pense qu'il va y avoir pas mal de cabinets déjà qui font du placement, qui vont se positionner. Ce qui est sûr, c'est que ça sera ouvert au marché. Avant de passer à la deuxième partie, donc effectivement, retenez bien cette idée qu'il y aura cette logique de désintermédiation. Mais qui dit désintermédiation, comme vous le savez, il n'y a jamais de désintermédiation. Ce n'est pas parce que vous enlevez un intermédiaire aujourd'hui qu'il n'y aura pas d'intermédiaire demain. Simplement, ça ne sera plus les mêmes. On le voit sur le marché du travail, vous avez les agences d'intérim qui se sont positionnées. Entre l'offre et la demande, il y a toujours un intermédiaire. Donc demain, on peut très bien aussi imaginer qu'entre l'individu qui a un compte et les organismes de formation, des intermédiaires privés, éventuellement, se positionnant. Ça, ce n'est pas exclu. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un des intermédiaires... Quand je dis intermédiaire, c'est autant aujourd'hui, on a des intermédiaires financiers, c'est-à-dire sur le financement. Demain, ça, effectivement, c'est terminé. Demain, on aura toujours besoin de personnes pour accompagner, d'où le pari que doter la prestation au conseil en évolution professionnelle d'un financement spécifique et puis surtout l'ouvrir au marché, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne peut que se développer dans un contexte où on ne peut pas raisonner sur une logique individu-organisme de formation. Je pense que individu-organisme de formation sans personne entre les deux, c'est une idée, si vous voulez, très libérale, mais même les libéraux, ils ont conscience qu'à un moment donné, il va falloir effectivement orienter notamment les personnes les moins autonomes, les accompagner et puis surtout construire avec eux donc, des projets cohérents. Alors, cohérents par rapport à une offre de formation. Et cette offre de formation, et justement, c'est la deuxième partie, c'est se poser la question concrètement, qu'est-ce qui peut être demandé justement aux organismes de formation demain pour pouvoir vendre de la prestation directement aux individus. Autant aujourd'hui, la régulation, elle se fait du côté du financement, et c'est assuré par des intermédiaires qui sont les OPCA au passif. Demain, ces OPCA au passif disparaîtront, ne seront plus des intermédiaires, en tout cas entre l'individu et les prestataires. La question, c'est quelle régulation on met. Et cette régulation va passer forcément par la qualité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y aura plus d'exigences vis-à-vis de l'offre qu'on va mettre en face des individus. Alors avant de passer à cette deuxième partie, je vous propose d'ouvrir peut-être un temps d'échange. Si vous souhaitez... Alors, je suis désolé, je contextualise pas du tout par rapport à votre secteur. Peut-être ça peut paraître complètement décalé, ce que je dis là. Mais voilà, je vous parle du marché de la formation au sens large. Peut-être l'idée, c'est peut-être d'ouvrir et là, justement, redescendre un petit peu et voir avec vous, concrètement, par rapport à votre contexte, par rapport à cette première partie, comment vous positionnez là-dedans.
Bonjour. Je vais vous poser la question par rapport à la question de la tuyauterie que vous évoquiez tout à l'heure. Parce qu'il me semble que l'obligation de maintenir les salariés qualifiés dans l'entreprise existera toujours. Et donc, quels sont les moyens pour les entreprises de répondre à ces obligations ? Par où ça va passer ?
Le 1er janvier, alors pas le 1er janvier, la loi du 5 mars 2014, comme vous le savez, a déjà touché effectivement à la tuyauterie financière. Avant, les entreprises devaient consacrer un minimum légal à leur plan de formation. Ce minimum légal, c'était 0,9%, hein, je ne sais pas si ça vous parle, mais ce 0,9% a été supprimé. Hein, et le gouvernement de l'époque a considéré que finalement la dépense directe de l'entreprise, c'était un investissement. Et c'est à l'entreprise de savoir combien elle souhaite dépenser par chaque année. C'est-à-dire, avant, elle devait dépenser 0,9%, et c'est toujours un petit peu étonnant. Même nous, on l'a connu à Centrinfo, c'est-à-dire vous avez des entreprises qui vous appellent en disant, souvent ils vous appellent à la fin de l'année, hein, en disant est-ce que vous ne voulez pas nous faire une formation parce qu'on a du budget ? Oui, mais très bien, le budget, mais concrètement, est-ce qu'il y a un objectif derrière ? Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, on passe d'une logique de moyens à une logique de résultats. Et vous avez raison, les entreprises ont une obligation vis-à-vis de leurs salariés. Contrairement à ce qui est dit, ils n'ont pas l'obligation de former les salariés. Et ça, vous pouvez lire le Code du travail, il n'y a aucune disposition qui dit l'entreprise a l'obligation de former le salarié. En revanche, l'entreprise a l'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail. Le meilleur moyen, bien évidemment, c'est la formation. L'adaptation au poste de travail, ce n'est pas le Code du travail, ce n'est pas le législateur qui a instauré cette obligation, c'est le juge. Ça a commencé au début des années 90, en 1991, vous avez ce qu'on appelle l'arrêt Expovite, hein, c'est la chambre sociale de la Cour de cassation, qui dit la chose suivante, et à l'époque, il n'y avait rien dans le Code du travail, c'est-à-dire que, si vous voulez, l'obligation trouve sa source, non pas dans un texte juridique, mais dans le contrat de travail. Hein. On n'a pas besoin d'un texte. Dit l'employeur a l'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail. Pourquoi ? Parce qu'il a l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. C'est-à-dire que si... Moi, demain, je décide de recruter donc une personne, un salarié, pour un poste donné, parce que la personne maîtrise le logiciel X. Et c'est du jour au lendemain, je décide de changer de logiciel, je suis obligé d'adapter ses compétences par rapport à ce nouveau logiciel. Vous remarquerez que le poste de travail n'a pas évolué, c'est toujours le même. C'est-à-dire que les compétences et les connaissances qui seront acquises seront mobilisées dans le même poste de travail. Donc l'adaptation au poste de travail, aujourd'hui, c'est une notion... on va dire, qui rentrait dans les mœurs, et les employeurs jouent plus ou moins le jeu hein, par rapport à l'adaptation au poste de travail. Simplement, il faut savoir qu'à partir des années 2000, plutôt 2007 plus exactement, vous avez une nouvelle obligation qui commence à émerger. Celle-ci est un petit peu différente, et celle-ci pose plus de problèmes aux employeurs. Tout à l'heure, je vous disais que l'adaptation au poste de travail, ce n'est pas la loi qui l'a instaurée. Simplement, la loi l'a repris dans le Code du travail. C'est la loi Aubry, dans les années 2000, qui introduit une disposition qui dit la chose suivante. L'employeur a l'obligation d'adapter le salarié à son poste de travail et rajoute une deuxième obligation. Il a l'obligation de maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi. Veiller à maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi. Alors, depuis donc 2007, on a eu un certain nombre d'affaires. Vous aviez des salariés peu ou pas qualifiés qui sont allés devant le Conseil des prud'hommes et qui ont fait constater deux choses. Première chose, le manque de formation. Deuxième chose, leur ancienneté. À partir de ces deux éléments, le juge a considéré que l'employeur n'a pas veillé à l'employabilité de ses salariés, n'a pas veillé à maintenir la capacité des salariés à occuper un emploi. Simplement, les employeurs, à travers leur conseil, ont rétorqué en disant « Attendez, les salariés en question, certains étaient encore dans l'effectif. » Les salariés en question, c'était des métallurgistes, des ouvriers de la métallurgie, vous aviez des préparateurs véhicules, des garçons de cuisine, etc., etc. Et certains de ces salariés étaient encore dans l'effectif. Les employeurs ont fait constater que la plupart de ces salariés étaient adaptés à leur poste de travail. À quoi bon les former, sachant qu'il n'y avait pas de poste d'un niveau de qualification plus élevé à leur offrir ? Former pour former, à quoi bon ? Simplement, le juge a dit la chose suivante. Ce qu'on vous reproche, ce n'est pas l'adaptation au poste de travail. Ça, on sait ce que c'est. Hein, c'est la Expovite depuis 91. Ce qu'on vous reproche, c'est de ne pas avoir veillé, de ne pas avoir été attentif à maintenir la capacité du salarié à occuper un emploi. Parce que le Code du travail dit un emploi, il ne dit pas son emploi. Un emploi, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que vous devez vous préoccuper de son employabilité interne, mais aussi de son employabilité externe. C'est la raison pour laquelle, en 2014, on met en place ce qu'on appelle l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, l'idée, c'est effectivement, de permettre aux employeurs de mesurer l'employabilité de leurs salariés à travers un rendez-vous biannuel et surtout un rendez-vous qui a lieu tous les 6 ans, on fait un état des lieux. Et là, on voit si on a pris des mesures pour les salariés. Il faut en prendre 2 sur 3. Les 3 mesures, quelles sont-elles ? C'est action de formation, des éléments de certification ou encore une progression salariale ou professionnelle. Mais vous voyez qu'on change complètement de logique par rapport à ce qui se faisait avant 2014. Avant 2014, l'incitation était une incitation fiscale, financière. On disait aux entreprises, vous devez dépenser un minimum légal, c'est-à-dire un 0,9. Aujourd'hui, les entreprises peuvent dépenser ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent, c'est leur investissement. En revanche, elles devront rendre des comptes tous les 6 ans avec leurs salariés à travers l'entretien professionnel, mais surtout rendre des comptes en cas de contentieux. Si demain, effectivement, des salariés, encore une fois, les salariés procéduriers, moi, j'en connais pas beaucoup, mais ça existe. C'est-à-dire si, effectivement, l'affaire se termine devant le juge, l'employeur prend un risque. Mais vous avez raison, aujourd'hui, l'incitation n'est plus une incitation financière. C'est une incitation, on va dire, sociale, qui rentre de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise.
J'avais donc une petite question, s'il vous plaît, dans le cadre de l'utilisation du CPF, de la nouvelle formule, est-ce qu'il nous faudra l'accord de l'employeur ou pas ? Ou est-ce qu'on essaie encore ou pas ? Parce qu'aujourd'hui, quand on a un salarié qui vient se former sur le mode de la formation continue, c'est avec son accord.
Alors, ça c'est une très bonne question, dans le sens où... c'est tout le débat aujourd'hui. C'est à quel moment on se forme. Est-ce qu'on se forme pendant l'emploi ou entre 2 emplois ? Autant le CIF, vous avez la garantie d'avoir une autorisation d'absence. Certes, vous n'avez pas le financement, mais au moins l'autorisation d'absence. Le CPF, c'est différent. Le CPF a été conçu dans une logique où le projet doit être un projet partagé pour partir en formation. Donc, je serais tenté de vous dire que le CPF, certes, sera monétisé, mais... et c'est ce qui semble se dessiner d'ailleurs, on va avoir effectivement 2 types de CPF. Il y a le CPF classique, à savoir, le CPF classique, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que je veux faire une formation, souvent une formation courte, parce qu'il faut savoir que la majorité des CPF aujourd'hui sont des formations courtes. Donc je fais une demande à mon employeur se prononce sur le contenu et le calendrier, et il est en droit de refuser, bien évidemment. Pourquoi ? Parce que c'est sur le temps de travail. À quel moment je peux me former ? Je peux me former sur mon temps personnel, parce que ça, c'est possible, ou entre 2 emplois, pendant une période de chômage. Et d'ailleurs, on voit bien qu'à travers la réforme d'assurance chômage, on incite aussi vers ça, c'est-à-dire l'idée de se former entre 2 emplois. Mais les partenaires sociaux ont insisté à travers leurs négociations pour maintenir un mécanisme qui ressemble beaucoup au CIF. C'est pour ça qu'on peut très bien imaginer que demain, on aura aussi un CPF dit de transition, où on aurait une autorisation d'absence. La question, c'est quel financement ? Parce que, vous voyez, la différence entre le CPF et le CIF aujourd'hui, c'est que le CPF permet de financer un maximum de dossiers. Pourquoi ? Parce que les formations sont courtes et souvent, on encourage les personnes à se former sur le temps personnel ou pendant la période de chômage. Donc, en termes de coûts, ça coûte moins cher. Du coup, on forme plus de personnes. Il faut savoir que le CPF est très récent. Ça a démarré au 1er janvier 2015. Par exemple, sur 2017... on a eu 300 000 dossiers financés, 300 000, contre 40 000 CIF. Pourquoi ? Parce que le CIF, c'est un mécanisme, un système très généreux. On finance bien, c'est-à-dire dans le sens où on finance non seulement les frais pédagogiques, sachant que les formations sont plutôt des formations longues, ça peut aller jusqu'à 1200 heures, mais surtout, on finance la rémunération. Et en matière de formation, ce qui coûte le plus cher, c'est la rémunération. Donc, c'est un débat qu'on a aujourd'hui, au sein même du gouvernement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on souhaite faire ? Ce qui est sûr, c'est qu'on... Bien évidemment, l'idée, c'est de financer le maximum. Mais on voit bien que si on reste que sur une logique CPF, toutes les personnes qui auront un projet de reconversion auront du mal, effectivement, à le mettre en œuvre dans le cadre d'un CPF classique. Et donc, il faudra, bien évidemment, une autorisation d'absence, un droit, en tout cas, à l'absence. Et ce droit à l'absence ne peut passer que... par une autorisation d'absence. Et cette autorisation d'absence, d'après ce qui se dit, on pourrait la retrouver à travers le CPF de transition. Pour l'instant, ce n'est pas encore arbitré, mais on pourrait effectivement avoir un CPF dit classique et un CPF de transition.
Une Unaforis.
Du côté de l'Unaforis. un acteur de l'économie sociale et solidaire.
Une Inforis
sur le trottoir d'à côté.
La web radio de l'intervention sociale.
Union nationale des acteurs de formation et de recherche en intervention sociale.
Une Inforis
sur le trottoir d'à côté.